Chemin de vie.
Bienvenue de la part de toute l'équipe Chemin de vie qui a le plaisir de partager ce moment avec vous du lundi au vendredi pendant 30 minutes. Chemin de vie vous propose de parcourir la Bible d'un bout à l'autre et c'est Jacques Yosti qui nous en développe une facette chaque jour. Au micro, Jean.
Ainsi que Heidi et Daniel à la technique. De quoi est-il question aujourd'hui, Jean ?
Hier, nous avons vu que le roi Salomon a mis tout son cœur pour préparer la construction du temple. Aujourd'hui, nous le suivrons dans la construction proprement dite et dans la confection de tous les ustensiles nécessaires. Mais avant de voir tout cela, écoutons cette chanson intitulée « Encore une fois » interprétée par le groupe Madison.
Encore une fois.
Caractéristique des grands hommes qui ont fait l'histoire est qu'ils étaient des êtres exceptionnels. Si on leur posait la question, à votre avis, comment ceux qui vous ont bien connu se rappelleront de vous, ils auraient sans doute eu du mal à répondre, tellement ils ont eu des vies riches. Maintenant, si on vous posait la même question, que diriez-vous? Vous avez 20 secondes. Tic, tic, tic. Terminé. Le grand roi Salomon est connu pour la splendeur de son règne, pour son palais grandiose et sa sagesse proverbiale. Cependant, selon le chroniqueur qui raconte son règne, c'est la construction du temple de l'Éternel qui fut l'événement le plus important de sa vie de monarque. Il y consacra l'immense richesse que son père David avait accumulée spécifiquement pour ce vaste projet et demanda même le concours du roi de la ville de Tyr. Il faut dire qu'à cette époque, les Phéniciens étaient les meilleurs artisans du monde antique. Tyr s'appelle aujourd'hui Sûr et se trouve au Liban, sur la Méditerranée. Je continue à lire dans le deuxième chapitre du second livre des Chroniques en compressant tout au long. « Maintenant, veuille donc m'envoyer un homme expert dans le travail de l'or, de l'argent, du bronze et du fer, dans la teinture des étoffes en pourpre, en carmin et en violet, et qui s'y connaisse dans l'art de la sculpture. Il collaborera avec mes propres spécialistes en Juda et à Jérusalem, ceux que mon père David a préparés. Veuille aussi m'expédier du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de santal, car je sais que tes bûcherons savent s'y prendre pour couper le bois. Mes ouvriers travailleront avec les tiens. Que l'on me prépare une grande quantité de bois, car le temple que je vais construire sera très grand et magnifique. » Versets 7 à 9. En réalité, ce temple n'était pas très grand par rapport à d'autres du monde antique, comme par exemple celui de Diane, dans la ville d'Éphèse, sur la côte ouest de la Turquie. Par contre, il était richement décoré avec d'énormes quantités de métaux précieux. Les Israélites étaient surtout adonnés à l'agriculture comme Dieu l'avait voulu. Il est vrai que leur pays s'y prête très bien au niveau du climat et la terre y est particulièrement fertile. Leur savoir-faire en matière d'agriculture est aujourd'hui reconnu dans le monde entier. À cette époque, Israël ne disposait pas suffisamment d'artisans pour répondre aux besoins de la construction du temple. C'est pourquoi ils sollicitèrent les Phéniciens, qui, comme je l'ai dit, étaient réputés pour leur grande habileté manuelle. De plus, ils disposaient de cèdres qui poussaient sur leur territoire et aussi de bois de santal qu'ils importaient des Indes, pays avec lequel ils faisaient du commerce. Ce bois était utilisé en ébénisterie ou brûlé pour la bonne odeur qu'il dégage. En contrepartie, les Phéniciens étaient tributaires des peuples habitant l'intérieur des terres pour leur approvisionnement en produits agricoles. Ils apprécient donc l'offre que leur fait Salomon. Je finis ce chapitre. « Je donnerai à tes bûcherons 6 000 tonnes de blé, 4 000 tonnes d'orge, 90 000 litres de vin et 900 000 litres d'huile. » Le roi de Tyr envoya une lettre à Salomon dans laquelle il disait « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur lui. Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, de ce qu'il ait donné au roi David, un fils plein de sagesse, de bon sens et d'intelligence, qui bâtira un temple à l'Éternel et un palais royal pour lui-même. Je t'envoie donc aussitôt un spécialiste particulièrement habile. Il s'appelle Huram Abi, et il est fils d'une femme de la tribu de Dan et d'un père tyrien. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze et le fer, la pierre et le bois. Il sait teindre les étoffes en pourpre et en violet, travailler les tissus de fin lin et de carmin. Il connaît tout l'art de la sculpture. Il saura réaliser tout projet qui lui sera confié. Il travaillera avec tes propres artisans et avec ceux de mon seigneur David, ton père. » Versets 10 à 13. Comme la construction du tabernacle avait nécessité beaucoup d'expertise, il en est de même pour le temple. En décrivant les capacités hors du commun de Huram Abi, le chroniqueur établit une continuité entre les deux projets. C'est aussi sa manière d'encourager ses lecteurs, des Juifs revenus d'exil, à reconstruire le temple qui a été détruit afin d'y célébrer à nouveau le culte de l'Éternel. Nous arrivons maintenant au chapitre 3, que je commence à lire en compressant tout au long. Salomon commença à bâtir le temple de l'Éternel à Jérusalem, sur la colline de Moria, où l'Éternel était apparu à son père David, et à l'emplacement que celui-ci avait prévu sur l'aire d'Ornan, le Yébousien. Verset 1. Ce passage identifie la colline de Sion, sur laquelle sera construit le temple, avec le mont Moria, où, d'une part, Abraham était allé sur l'ordre de l'Éternel pour sacrifier son fils Isaac, et d'autre part, où Dieu, sous la forme de l'ange de l'Éternel, était apparu à David. Je continue. Salomon commença à bâtir le deuxième jour du deuxième mois de la quatrième année de son règne. Les fondations du temple avaient, selon l'ancienne unité de mesure, 30 mètres de long et 10 mètres de large. Le portique d'entrée avait 10 mètres de large, comme le temple et 10 mètres de haut. Salomon le fit recouvrir intérieurement d'or pur. Versets 2 à 4. L'année juive commence à l'équinoxe de printemps. Nous sommes donc en avril-mai, probablement de l'an 966 avant Jésus-Christ. Comme j'ai déjà dit, le temple avait somme toute des dimensions modestes. Il n'était que 2 fois plus grand que le tabernacle. Je continue plus loin. Tout le temple fut plaqué d'or, la salle, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes. À l'intérieur, il fit construire la salle du lieu très saint. Elle avait 10 mètres de long sur la largeur du temple et 10 mètres de large. Il utilisa 20 tonnes du meilleur or pour la recouvrir. Pour la salle du lieu très saint, on sculpta 2 chérubins et on les recouvrit d'or. Les ailes déployées de ces chérubins avaient bien une envergure totale de 10 mètres, versets 7 à 10. Les chérubins entouraient le couvercle du coffre de l'Alliance, siège de l'Éternel. Cette classe d'anges a pour rôle de protéger la sainteté de Dieu. Le lieu très saint avait une forme cubique de 10 mètres de côté. Le livre de l'Apocalypse décrit aussi la Nouvelle Jérusalem comme ayant la forme d'un cube. Seulement, il n'y aura plus de temple et la ville constituera en elle-même le lieu très saint où réside l'Éternel. Je continue le texte plus loin. Salomon fit tisser le voile de fil violet, pourpre et carmin et de lin, et il y fit broder des chérubins. Verset 14. Ce voile était une barrière interdisant l'entrée du lieu très saint. Il symbolise l'humanité et le corps humain du Christ. Lorsque Jésus expira sur la croix, le voile se déchira de lui-même de haut en bas, indiquant par là que la voie était libre pour quiconque voulait s'approcher du Dieu 3 fois saint, à condition, bien sûr, qu'il le fasse au nom du Christ. Ce voile était magnifiquement brodé. Le violet représente le ciel, le pourpre est la couleur de la royauté, et le carmin évoque la couleur du sang que le Fils de Dieu a dû verser pour expier les péchés du monde. Le lin, une fibre noble, rappelle la vie consacrée de Jésus sur terre. Je continue jusqu'à la fin du chapitre. Devant le temple, il fit édifier 2 colonnes hautes de 17 mètres, surmontées d'un chapiteau de 2 mètres 50 de haut. Il fit ériger les colonnes sur la façade du temple de part et d'autre de l'entrée. Salomon appela celle de droite Yakin, ce qui veut dire « il affermit », et celle de gauche « Boaz », ce qui veut dire « la force est en lui ». Versets 15 à 17. Ces colonnes surdimensionnées avaient pour but de donner une impression de puissance, ce qui est évident par leur nom. Elles étaient, comme tout le reste, richement décorées. Nous voici maintenant au chapitre 4 qui continue la description du temple. Je commence à lire en compressant tout au long. Salomon fit fabriquer un autel de bronze de 10 mètres sur 10 et 5 mètres de haut. Verset 1. Les dimensions de cet autel gigantesque surprennent. Il était 4 fois plus long et plus large et 3 fois plus haut que celui que Moïse avait construit pour le tabernacle. Il faut dire que ce dernier devait être transporté, ce qui n'était pas une mince affaire, tandis que l'autel du temple sera fixe. Je continue. Puis il fit couler la grande cuve ronde en métal fondu. Elle mesurait 5 mètres de diamètre, 2,50 mètres de hauteur. Un cordeau de 15 mètres mesurait sa circonférence. Verset 2. Cette cuve servait pour les ablutions rituelles des prêtres, obligatoires avant qu'ils puissent entrer dans la partie dite « sainte » du temple. Ce lavage communiquait que même les prêtres étaient pécheurs comme les autres hommes et devaient accomplir un acte symbolique de purification avant de s'approcher de la maison du Dieu trois fois saint. Entre l'extérieur du temple et le lieu très saint dans lequel le grand prêtre seul pouvait entrer une fois l'an, plusieurs obstacles étaient dressés, un peu comme pour le parcours du combattant. Pour être prêtre, il fallait appartenir à la lignée de Aaron. Ensuite, le prêtre devait s'habiller d'une certaine façon, puis suivre tout un rituel contraignant dont celui de se laver avant de commencer son travail. De plus, le service du culte suivait tout un cérémonial complexe. Toutes ces barrières ont totalement disparu dès que Jésus est mort sur la croix. Maintenant, la voie est libre et la porte grande ouverte. Mais malheur à celui qui refuse d'accepter le Christ comme son sauveur. Je continue le texte. La cuve elle-même reposait sur 12 bœufs de bronze, ayant leurs têtes tournées 3 par 3 vers le nord, l'ouest, le sud et l'est, alors que la partie postérieure de leur corps était tournée vers l'intérieur et portait la cuve. Verset 4. Ces 12 bœufs représentaient les 12 tribus qui avaient campé dans le désert, 3 par 3 autour du tabernacle, et orienté en direction des 4 points cardinaux. Je lis un peu plus loin et finis ce chapitre. Huram-Abi avait fabriqué en bronze poli pour Salomon tous les objets destinés au temple de l'Éternel. Le roi les fit fondre dans la vallée du Jourdain, dans les couches d'argile entre Soukhot et Tseredata. Versets 16 à 17. Le bronze provenait des célèbres mines du roi, situé dans toute la région du sud de la mer Morte. L'autel des holocaustes, les bassins et tous les ustensiles qui étaient en bronze furent fabriqués dans la vallée du Jourdain à 50 km au nord de la mer Morte et un peu au nord de l'embouchure du Yabok, un affluent du Jourdain. L'argile abonde dans cette région et servit à la confection des moules dans lesquels furent coulés ces différents objets. Des fouilles ont confirmé que cet endroit était un haut lieu de la métallurgie et à Soukhot, on peut encore visiter les ruines d'un sanctuaire fait en bronze. Le texte continue avec beaucoup de détails que je passe sous silence. Avec ce chapitre 4 se termine la description de la construction du temple. Il est significatif que le chroniqueur l'a évoqué dès le début du récit du règne de Salomon. Par contre, il n'a rien dit du palais grandiose, Versailles avant son heure, que le roi s'est fait ériger. Son souci primordial est le culte rendu à l'Éternel. Il va aussi détailler la dédicace du temple, son but étant, comme je l'ai dit, d'encourager les Juifs rentrés d'exil à reconstruire leur temple détruit afin d'y célébrer à nouveau le culte comme du temps de Salomon. Nous voici arrivés au chapitre 5 qui va décrire la mise en service du temple. Je commence à lire en compressant tout au long. Quand tous les travaux que le roi Salomon fit exécuter pour le temple de l'Éternel furent achevés, Salomon fit apporter les objets que son père David avait consacrés, l'argent, l'or et tous les ustensiles, et il les déposa dans les trésors du temple de Dieu. Alors Salomon rassembla à Jérusalem tous les responsables d'Israël, tous les chefs des tribus et les chefs de famille des Israélites pour faire transporter le coffre de l'Alliance de l'Éternel depuis la cité de David, qui est Sion. Verset 1 à 2. Sion, appelée la cité de David, est une forteresse au sommet d'une colline au sud de la ville de Jérusalem, qui se trouve entre les vallées du Cédron et du Tyropéon. Même après que la ville se sera étendue, Sion continuera à désigner Jérusalem. David avait fait déposer le coffre de l'Alliance sous une tente 40 ans plus tôt. Son installation dans le lieu très saint est particulièrement solennelle, parce que, avec son couvercle, c'est le siège même de Dieu. Il n'est accessible par le grand prêtre qu'une seule fois par an pour le jour des expiations, appelé Yom Kippour, une fête austère du calendrier juif parce que tout le peuple est appelé à s'humilier et à se repentir. Je continue. Tous les hommes d'Israël s'assemblèrent auprès du roi pendant la fête des cabanes qui a lieu au septième mois. Verset 3. La fête des cabanes commémorait les presque 40 années que les Hébreux avaient passées à marcher dans le désert. Elle avait lieu le septième mois du calendrier juif, en septembre-octobre, et était une des trois fêtes obligatoires pour tous les hommes israélites, les deux autres étant la Pâque et la Pentecôte. Pour mémoire, je compresse deux passages instituant la fête des cabanes. Lorsque vous aurez rentré le blé, battu et terminé la vendange, vous célébrerez pendant 7 jours la fête des cabanes. Vous serez dans la joie en célébrant la fête, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, avec les Lévites et les immigrés, les orphelins et les veuves qui habitent parmi vous. Pendant 7 jours, vous célébrerez la fête en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi, parce qu'il vous aura béni dans toutes vos récoltes et dans tout le travail que vous entreprendrez pour que vous soyez tout à la joie. Vous habiterez pendant 7 jours dans des cabanes pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Fin de citation. Je continue le texte. Le roi Salomon et toute la communauté d'Israël rassemblée auprès de lui devant le coffre offrirent en sacrifice un très grand nombre de petits et de gros bétails qu'on ne pouvait évaluer. Verset 6. Ce très grand nombre d'animaux immolés préfigurait la valeur infinie du sacrifice de Jésus-Christ. Je continue. Les prêtres installèrent le coffre de l'Alliance de l'Éternel à la place qui lui était destinée dans la salle du fond du temple, c'est-à-dire dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient leurs ailes déployées au-dessus de l'emplacement du coffre, de sorte qu'ils formaient une voûte au-dessus du coffre et de ses barres. Versets 7 à 9. L'Arche de l'Alliance, le tabernacle et tous les autres ustensiles du culte avaient été construits dans le désert, au pied du mont Sinaï. Pendant la pérégrination des Hébreux, le coffre sacré se déplaçait avec eux en tête de colonne. Les prêtres qui le portaient furent les premiers à poser les pieds dans le Jourdain lorsque les Israélites entrèrent en terre promise. Une fois le pays de Canaan pacifié, l'arche continuait à être déplacée au gré des batailles. Elle fut même une fois capturée par les Philistins. Mais ils la renvoyèrent rapidement en Israël à cause du châtiment divin qui s'était abattu sur eux. Sous le règne de David, elle avait été amenée en grande fanfare à Jérusalem, où elle demeura sous une tente jusqu'à ce que la construction d'un bâtiment en dur fût achevée. Maintenant, le coffre sacré et le propitiatoire qui le fermait, aussi appelé siège de l'Éternel, avait un lieu fixe dans le temple de Jérusalem. C'est là que les Israélites se rendaient pour adorer Dieu. Aujourd'hui, sous le régime de la Nouvelle Alliance, il ne veut plus être confiné à une bâtisse, même pas une église, mais Dieu désire qu'on l'invoque partout. Je cite les paroles de Jésus. « Crois-moi, dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. »
Raison d'exister. C'est la chanson qui vient d'être interprétée par Jennifer Lopez. Si vous avez apprécié cette lecture commentée par Jacques Hostie, et si vous désirez en recevoir une copie, c'est très simple. Il vous suffit de téléphoner au 0820 200 628. C'est un numéro Indigo. 0820 200 628.
N'hésitez pas à visiter notre site internet chemindevie.info. Chemins au pluriel et le tout attaché. Amis auditeurs, quant à nous, il est l'heure de nous quitter. Mais restez bien à l'écoute de la suite des programmes de votre radio locale préférée. Au revoir.
À demain.